Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Nous sommes de retour avec un épisode de Pour moi, la famille, un balado qui donne l'opportunité aux futurs parents et aux familles de la communauté LGBTQ+, de partager leur histoire, leurs défis et les solutions qu'elles ont trouvées pour y faire face, chacune d'entre elles à sa façon. C'est toujours moi, Lani.
Et moi, June.
Comme vous l'avez entendu dans l'épisode précédent, l'une de nos questions phares est « Quels ont été les défis personnels pour arrimer la famille, la culture d'origine, l'identité LGBTQ+, et la parentalité ?»
Et pourquoi, Lani, c'est important de poser cette question-là?
Ouais. Les cultures BIPOC sont souvent des cultures multidimensionnelles. Et quand on choisit de vivre en tant que personne out, il faut arriver à comprendre où on se situe dans ces questions. Comment arriver à créer cette identité queer sans casser les fils conducteurs que sont nos racines culturelles et ou traditionnelles. On croit souvent que l'un et l'autre sont incompatibles. Mais est-ce que c'est vraiment le cas?
Mm-hmm.
En fait, c'est pour chercher à répondre à cette question qui soulève bien des tabous que nous avons posé cette question à nos familles.
Ah, OK.
Voilà. Et vous allez entendre avec nous si ces deux notions trouvent un juste milieu pour cohabiter. En parlant de ces notions, voici notre capsule vocabulaire. Alors, June, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que l'appropriation culturelle?
Bien sûr, je vais le lire ici. Donc, c'est le fait de prendre ou d'utiliser des éléments d'une culture qui n'est pas la vôtre. Surtout, sans montrer que vous comprenez ou respectez cette culture.
Mm-hmm. Effectivement. Donc, si je prends comme exemple, moi d'où je viens,
mm-hmm.
on a le carnaval. Si je mettais une coiffe traditionnelle autochtone comme déguisement, je pense que ce serait vraiment quelque chose, un grand non.
Je pense aussi.
Tu sais, le fameux cow-boy indien.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Des gens, on oublie ça, on oublie cette phrase, puis on oublie le déguisement parce que c'est pas un déguisement, c'est une coiffe traditionnelle.
Le deuxième mot, c'est jumelage culturel. On en parle dans l'entrevue avec Bianca. Mélanie, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Le jumelage culturel en adoption, c'est de trouver en fait des parents pour les enfants et les jeunes partageant leur réalité ethnique, culturelle, religieuse et identitaire. Ce serait donc pour moi de dire que je serais ouvert à adopter un enfant créolophone, par exemple, puisque moi-même, je suis une personne créolophone. Avec le prochain terme, June, mm-hmm. c'est le terme amazigh. Est-ce que tu peux nous donner la définition?
Bien sûr. Les personnes amazigh, en fait, c'est une ethnie autochtone d'Afrique du Nord. Ils sont aussi anciennement connus sous le nom de berbères, mais qui est un terme péjoratif parce que ça s'associe avec le mot barbare. Donc, les personnes amazigh se sont réappropriées le mot en leur donnant le nom amazigh qui veut dire homme libre.
Métissage. Tu nous donnes la définition?
Bien sûr. Donc, le métissage, c'est un mélange impliquant des individus de groupes ethniques différents ou d'éléments de plus d'un type.
Chez moi, c'est métissé.
Mm-hmm.
Mes enfants, en fait, ont un grand métissage. Ils sont métissés caribéens, québécois, chiliens et allemands. Fait que le dernier mot, c'est le mot négritude. Le concept de négritude est apparu comme l'expression d'une révolte des Noirs contre la situation historique du colonialisme français et du racisme. C'est un mouvement porté par Aimé Césaire, Damas et Senghor. Et pour citer Césaire, la négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture.
Puis c'est un concept que, bien sûr, en tant que personne blanche, je ne peux pas répéter, mais que je dois célébrer.
Exactement. La première famille qu'on rencontre, c'est la famille de Myriam. Alors Myriam, qui utilise les pronoms elle, she en anglais, est une femme queer née en France de parents marocains. Elle vit depuis plus de 20 ans au Canada, enseignante en sociologie au niveau collégial depuis 17 ans. Elle est la fière maman de deux enfants métis.
D'où est-ce que tu connais Myriam?
Oh, ça remonte en 2017.
Okay.
On s'est rencontrés en fait à un lancement de livre et puis on s'est super bien entendu. Elle nous a invités chez elle et puis depuis, on a continué notre amitié. On était en septembre 2022. Nous nous sommes déplacés chez elle à Montréal, où nous avons été accueillis dans son univers aux saveurs de traditions ancestrales marocaines. Tapis colorés, petits snacks, noix et olives, et derrière, un petit chien qui ronflait, qui s'appelle Charlotte. Et petite anecdote, Charlotte, c'est mon ancien chien. Mais sans plus tarder, faisons place à Myriam.
Bien bonjour. Bonjour Lani.
Eh ben, merci énormément de nous accueillir chez toi dans ton magnifique, coloré petit bonheur.
Merci.
C'est vraiment très agréable d'être là.
Mais alors, c'est un honneur de vous recevoir chez moi aussi. Hein.
Je vais te laisser en fait te présenter et puis nous dire des petites choses sur toi, ton nom, tes pronoms et puis si tu as des petites choses croustillantes aussi sur ta personnalité.
Je m'appelle Myriam, j'utilise les pronoms elle et she en anglais. Je m'identifie comme une personne queer, je suis la fière maman de deux enfants au nom de Salomé et Léo. Je vis à Montréal depuis, au Québec, ça va faire 22 ans bientôt. Et je suis aussi professeure au collégial de sociologie, créatrice de contenu dans un autre univers, on va dire ça comme ça, pour pas trop se mélanger. Et surtout, je suis née en France, d'origine marocaine. Et au niveau de l'identité, je me considère comme une Marocaine qu'on appelle une MRE, une Marocaine résidant à l'étranger. Et toutes les questions de réappropriation identitaire, toutes les questions qui permettent de se grounder au niveau de d'où on provient, me passionne.
Toute une belle présentation de toi, plein de petites choses qu'on découvre. La partie aussi donc de du fait d'être parent. Donc tu as dit de deux pré-ado.
Ouais. Un enfant pré-ado, puis une cocotte qui veut pas trop grandir, mais qui est très très mature quand même. Tu vois, elle a trouvé son équilibre. Je trouve Léo assez facilement là. Ouais.
Donc justement, est-ce que pour toi, être parent, ça a toujours été quelque chose qui était dans ta vision? Comment est venu ce projet parental?
C'est drôle ces questions, mais moi je ne voulais pas d'enfant.
Encore?
J'ai quand même l'impression que je suis la seule. Mais en fait, à partir du moment où tu t'assois et puis tu commences à intellectualiser ta position sociale, comment tu vois l'avenir, etc., tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? C'est toujours pareil. Puis, à un moment donné, avec leur deuxième parent, j'ai eu un wake-up call et là, j'ai dit, OK, franchement, je pense que je suis capable. Mais en toute honnêteté, parents issus de l'immigration, c'est pas facile. Et j'ai vécu une très, très, très grande solitude. Et à refaire, là, je repenserai deux fois où est-ce que je donne naissance à mes enfants. C'est surtout ça. Ce n'est pas le fait d'avoir des enfants ou pas en avoir. C'est le fait d'avoir un village qui m'accompagne. Parce que j'ai quasiment accouché toute seule. J'ai fait mes premiers soins parce que, tu sais, on a tout un tas de rituels chez nous où tu es accompagnée par tes sœurs, ta mère et tout ça. J'y avais personne pour m'accompagner. Donc, j'ai pas eu la chance de pouvoir rendre l'arrivée de mes deux enfants comme très symbolique. Tu sais, ça n'a pas pu être symbolique pour moi. Là. Mais non, c'est quand même, je vais jamais retourner en arrière là. C'est plus que mes enfants, c'est mes potes, c'est mes partenaires de voyage, c'est Yael m'accompagne dans mes choix là, dans tout. Tu sais, je le dis, c'est pas ma maison. Oui, elle est et c'est pas ma voiture. Ça appartient aux enfants là. Tu sais, donc.
Voilà. Oui, il y a tout un fil qui s'est créé entre le moment, tu sais, ce non là, je veux pas. Puis tu sais, cette réflexion, on a dit, c'est sûr qu'au niveau de la société, on doit à un moment donné réfléchir, même si on le veut pas. Mm-hmm. Puis tu regardes maintenant, tu l'as dit, ce sont mes compagnons de voyage, On arrive à quelque chose où justement cette famille là qui était tellement pas sûre d'être là devient quelque chose de presque fondamental. Quand on avance, c'est magnifique à entendre.
Et j'ai l'impression que le retour aux sources et puis le fait que mes racines se soient plongées, c'est
because of them. Vraiment, c'est grâce parce que eux, là, tu sais. Et ça, je trouve ça cool. Mes responsabilités sociales ne seraient pas aussi ce qu'elles sont à l'heure actuelle si je n'avais pas été mère. Je sais que je dois 90% de mon parcours à mes enfants maintenant. Donc, ça va au moins. On s'est réconciliés avec le fait que j'ai fait ça toute seule. Et après, c'est sûr qu'on n'a pas de village, mais on a quand même été capable de bâtir quelque chose. Je ne vais pas mentir. Là, on n'est plus seul.
Donc, tu as parlé de cette culture-là, c'est de personne marocaine, née en France, arrivée ici.
Ouais, ouais.
Voilà, tu as construit une famille ici. Comment tu arrives justement à arrimer tout ça, à arrimer ta culture, ta parentalité, ton identité queer, et puis ben cette famille là, qu'au fur et à mesure ben prend ses ailes, je vais dire.
Ouais. Ben l'identité queer, pour moi, elle était indissociable du retour à l'ancestralité. Pour moi, je crois qu'une personne queer est d'abord et avant tout une personne ancestrale, hein, parce que les questions de rapport de domination entre les genres de manière ancestrale, elles se posaient beaucoup moins qu'elles se le posent à l'heure actuelle ou elles se le sont posées. À partir du moment où on a décidé de créer justement ces catégories-là, c'est parce qu'il y avait une volonté de pouvoir dominer un groupe par rapport à un autre. Et ça, c'est ce qui nous a amené graduellement vers le capitalisme. Donc, c'était quand même presque moderne finalement. Mais rien de plus moderne que de repartir en arrière. Et l'identité queer, elle nous permet non seulement de retourner en arrière, mais d'être très, très présent aujourd'hui.
Tu parles un petit peu de cette mémoire-là de réappropriation, etc. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de fondamental, la mémoire culturelle, tout ce qui est la mémoire familiale aussi, à transmettre, en fait?
Oui, ah oui, la transmission. La transmission, c'est ce qui va permettre à ce que... mon énergie et mon âme puissent vivre encore à travers mes enfants, à travers leurs enfants, mes petits-enfants et tout ça. J'ai eu une transmission historique et ancestrale en pointillé de la part des parents et de mes grands-parents parce qu'eux-mêmes, on les a amputés de leur histoire à cause de la colonisation, des grandes périodes de colonisation parce que mon pays a été surcolonisé. Et à un moment donné... J'étais arrivée à ce point où, quant à la transmission en trait d'union, il ne te reste plus rien au bout du compte. Tu te retrouves avec des miettes. Mmh. Et j'arrivais plus à penser que j'allais vivre de la sorte. En embrassant une histoire qui n'est pas la mienne, encore l'histoire des Français, là, c'est impossible que ça soit mon passé. Là. Ça ne peut pas l'être. Donc, il a fallu, à un moment donné, que je prenne une initiative très, très personnelle de dire « Ok, j'arrête là et je repars à zéro. »
Trouver quelque chose qui nous ressemble.
Qui me ressemble. Il faut aussi accepter que l'Afrique a cette extraordinaire chance de pouvoir accueillir en sa terre une diversité de peuples. Et ça, là, j'ai aussi accepté ça. Par la suite... Il a fallu que j'aille plus loin pour savoir d'où je viens et j'ai dit « Ok, au diable, ce qui va se passer, je vais faire un test d'ADN. Je veux savoir. Je veux voir s'il y a de l'arabe chez moi. Vous m'avez comme violenté, parce que c'est violent. Hein. Quand on te dit que t'es arabe, on te dit en fait que t'es sauvage et que t'es pas domptable. Tu sais, il y a toute une connotation avec ça, là. Et quand j'ai fait mon test d'ADN et que j'ai vu que j'étais 90% de descendance amazigh et 10% de descendance soudanaise occidentale, là, tu te dis « Ok, je comprends d'où je viens. » Les ressentis qu'il y avait à l'intérieur de moi, ils étaient pas faux. Ils sonnaient pas faux. Je me suis pas inventé un univers. Et donc là, ça a été encore un poids qui a été enlevé de mes épaules en disant « Waouh, objectivement, je suis 100% africaine. C'est trop cool. Au moins, je sais d'où je viens. »
C'est une première réalisation.
Ah, c'était magnifique.
En fait, enlève un poids, tout le poids justement du pays colonisateur où on essaie de te dire, on essaie de te catégoriser.
Que tu n'es pas ça.
Que tu n'es pas ça. En fait, de te donner ta petite carte d'identité plus ou moins fausse.
Exactement.
Oui, c'est incroyable en fait parce que ça... C'est quand tu regardes tes enfants, tu te dis, ben, vous êtes le produit de ça. Vous êtes cette lignée-là, cette lignée que moi, je ne pouvais pas connaître, ben, que je ne connaissais pas, mais que j'ai fait le travail de connaître pour pouvoir vous transmettre.
C'est exactement ça.
Maintenant, c'est qu'est-ce que les enfants vont faire avec, ça leur appartient de toute façon. Mais une fois que tu as l'information, pour moi, c'est déjà un pas de plus dans la vie. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, tu peux juste dire... Je sais d'où je viens.
Ouais, ouais.
Tu sais, on a cet adage, c'est si tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas.
Ouais.
Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai, mais c'est surtout de se dire, je suis confortable avec moi-même parce que j'ai l'information de qui ce moi-même est là. Absolument. Même si c'est minimal, mais c'est quand même une belle chose. Justement, toute cette beauté-là d'ADN, de géographie, de biologie, de science, revient, on n'est plus à tes enfants, on est à toi, à l'âge de tes enfants. Oh, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu te dirais avec tout ce que tu sais là maintenant?
Si j'avais eu un minimum, j'aurais peut-être été capable de souffrir moins. Parce que c'est de la souffrance de ne pas savoir d'où tu viens. C'est de la souffrance de se faire... identifié avec l'identité du colonisateur. C'est de la souffrance de se faire invalider, gaslighter constamment. Si je savais que dès toute petite, je pouvais m'affirmer africaine, que je pouvais dire que je viens d'ici, mais j'ai des origines descendantes d'esclaves. Mon nom de famille veut dire l'esclave en passant là. C'est juste à titre indicatif pour te dire, je le portais déjà sur moi, tu sais, et que je suis fière de ce passé-là parce que je démontre d'où je viens et où est-ce que je suis arrivée. Et tout ça là, si j'avais eu ça, je pense que j'aurais pu grandir. Peut-être maintenant, j'aurais pu dealer avec moins de trauma, mettons, tu sais. Mais je te dirais, en toute honnêteté, j'ai vraiment bien guéri, là. Depuis à peu près, 3-4 ans, ça va déjà beaucoup mieux. J'ai vécu pas mal de questionnements, même j'étais très, beaucoup de trigger cet été quand je suis allée au Maroc, parce qu'évidemment, ils ont comme invalidé tout ce que j'avais objectivement et scientifiquement construit à propos de mon identité. Et puis ma mère, elle rajoutait une couche là-dessus. Je peux pas lui en vouloir, là. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais beau faire montrer les résultats de statistiques avec ma mère et tout ça, elle, dans sa tête, c'était sûr, il fallait qu'elle provienne d'une famille avec un privilège social qui est totalement artificiel et qui est même pas reconnu par le royaume en passant, là, tu sais, donc ce qu'il veut dire. Et à un moment donné, je dis, mais c'est pas vrai, mais alors en fait, je me suis trompée, tout ce que j'ai fait, mais en fait, non, je me suis jamais trompée. Puis réellement, j'ai pleuré à grosses larmes plusieurs fois au Maroc, parce que je me faisais invalider constamment par rapport à tout ce que j'avais trouvé pour justement se limiter à une identité imposée par le colonisateur. Tu sais. Pour survivre à ça, j'ai fait toujours la même chose. J'ai fait du journaling. J'ai écrit, je me suis vidée. Je me souviens d'avoir écrit, mais avec beaucoup de violence. J'ai griffonné mon cahier et puis ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai compris aussi que ma famille... Je l'aime à toute petite dose, donc je ne peux pas rester plus de chez eux 2 jours. Et c'est des conversations que j'ai appris à ne plus ouvrir avec eux.
Voilà, et puis tout le monde n'est pas prêt non plus à prendre cette...
direction avec toi.
Cette direction, puis cette honnêteté aussi, parce que quand on vit un petit peu avec la Caraïbe, on a aussi...
Vous avez exactement le même problème qu'en Afrique du Nord, voilà, là, c'est la même chose.
Tout hein, à savoir, je ne dirais pas ce problème identitaire, mais cette question justement identitaire, quand tu te dis... Ok, je suis dans la Caraïbe. Ok, je suis dans les petites Antilles. Ok, ah, ben, française. Ah, tu regardes ton passeport, t'as un passeport européen, ouais, mais finalement, t'habites dans un département.
C'est ça.
Tu regardes autour de toi, ta famille va du plus clair
au plus foncé. Il y a du colorisme.
Il y a du colorisme.
Tout le monde se vante d'avoir du sang blanc dans les veines. Oui, oui, c'est la même chose qu'en République dominicaine aussi. Ça.
Voilà, donc tu te poses la question. Même en Haïti, là. Qui est-ce qui va véritablement m'accompagner là-dedans? Tu l'as dit, c'est de montrer les preuves, mais c'est beaucoup plus facile quand on est à l'extérieur.
Absolument.
Je trouve,
j'aurais jamais pu faire ça là-bas.
Justement, quand on voit. Comment, justement, tu es fière de tes enfants, etc. Qu'est-ce que tu dirais aux futures familles Cutie by POC pour qu'elles aussi puissent être devant ce micro et puis raconter pourquoi elles sont fières de leur famille?
D'abord, je crois qu'il y a un exercice qu'on doit faire avec nous, parents ou futurs parents, avec nous-mêmes, qui est celui de s'accepter, de s'écouter, d'accepter de se remettre en question et surtout, je crois réellement, être attentif et attentive à nos intuitions. Si en tant que futur parent, tu as encore l'intuition qu'il faut que tu règles des choses d'un point de vue identitaire, de ta place avec ta famille, peu importe les sphères que ça va concerner, fais-le. Tu n'es pas obligé de le faire avant d'avoir des enfants parce que nos enfants nous aident dans le processus aussi. Hein? Donc, c'est ça. Mais, oh mon Dieu, mais ici, à part... c'est tellement compliqué pour nous, les personnes qui se catégorisent dans la catégorie Kutiba Hip Hop, d'avoir des enfants, que quand tu décides déjà d'en faire, tu as déjà soulevé une montagne. Et donc, c'est sûr que la plupart du temps, tu vas être un excellent parent. Pour ne pas dire que les autres ne sont pas des bons parents. Parce que ton avoir des enfants, c'était un projet parental. Et ce projet-là, tu vas avoir un enfant qui va être idéalisé dans ta tête. Et à partir du moment où tu vas l'idéaliser, automatiquement, tu vas faire tout ce qui va être ton possible pour pouvoir l'aimer là et pour le rendre ton enfant heureux ou heureuse. Donc, j'ai assez confiance justement à la population, à notre groupe pour ça. Alors, je ne sais pas, je n'ai même pas de conseils à donner parce que j'ai confiance.
Super entrevue qui nous a fait voyager ici et ailleurs.
Oui, merci énormément à Myriam pour une entrevue migratoire et multidimensionnelle. Qu'est-ce que tu as appris, Lani, dans cette entrevue-là?
Ouais. En fait, le parcours de Myriam ressemble énormément au mien.
Okay.
Tiens, on a à peu près le même temps sur le territoire canadien. Moi, ça aussi, ça fait 20 ans que je suis arrivée. Tu sais, l'immigration, les notions de colonisation, les défis d'appartenance... C'est vraiment quelque chose qui résonne chez moi. Puis je pense que Myriam a parlé beaucoup de retrouver ses racines, de savoir d'où elle vient. Puis je me dis que moi aussi, je vais faire mon test d'ADN. Je pense qu'il est temps, là.
Puis je pense que Myriam est au Maroc en ce moment.
À en croire ces super belles photos, je pense que oui. Je pense que oui, elle est allée, elle est partie pour retrouver, en fait, ses racines, ses origines. Et puis je pense que c'est une super belle chose à faire. Notre deuxième famille, c'est celle de Bianca. Bianca a fondé son projet familial avec son ex-conjointe grâce à l'adoption de leurs deux enfants qui ont des origines afro-descendantes. Bianca vit maintenant avec son fils autiste de 16 ans et sa nouvelle conjointe. Elles veillent ensemble à mieux répondre aux besoins particuliers de celui-ci, dont sa réalité d'être une personne neurodivergente.
D'où est-ce que tu connais Bianca, Lani?
Mais en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Bianca pour la première fois lors d'une conférence que j'animais sur les familles avec enfants à besoins particuliers. Et Bianca est venue nous partager son rôle de mère en tant que mère d'un adolescent autiste.
Moi, je connais Bianca parce que c'est la coprésidente de la coalition des familles LGBT, n'est-ce pas?
Aussi.
Oui. On les a rencontrés en septembre 2022. On revenait à peine de la fête arc-en-ciel de Québec avec toute la famille de Lani. Sa mère, sa grand-mère, sa fiancée et son chien Domino. Pendant que nous étions en train d'interviewer Bianca et sa conjointe, le fils de Bianca était dans le salon avec toute la petite famille de Lani.
Donc, bonsoir Théo et Bianca.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, d'accueillir surtout aussi moi puis toute ma petite famille, ma grand-mère, ma maman sont là, ma blonde et même mon chien.
Voilà, c'est comme ça qu'on accueille.
Ah ben écoute, ça fait plaisir justement, on est là, on parle de famille, on est là pour ça. Est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre belle famille? En n'oubliant pas de donner vos pronoms aussi, ce serait vraiment... Et puis si vous avez d'autres petites choses croustillantes que vous voulez nous donner, ce serait aussi cool à entendre.
Alors, Bianca Nugent, je me présente comme une mère lesbienne, mère aussi adoptive parfois, je précise. Mon fils, Isaiah qui va bientôt avoir 16 ans, ma conjointe Théo, on est dans notre nouvelle maison, on est super heureuse, on est vraiment très fiers là et puis... soulagée de pouvoir accueillir qui on veut, quand on veut. Puis, je pense qu'on a un bel exemple aujourd'hui. Alors, merci de nous avoir fait l'honneur de baptiser notre maison avec autant de joie et de sourire. Et puis, ma maman, qui aussi vit en bas de manière intergénérationnelle. Et puis, on a notre chat Pouho aussi qui nous accompagne.
Oh, juste comme ça, ça vient d'où ce nom?
Ben, Pouho, c'est d'origine bulgare. Ma conjointe Théo est d'origine bulgare. Alors, je ne suis plus trop... c'était quoi encore? Poilu.
En fait, c'est le chat poilu. Alors voilà, beaucoup de poils. Alors c'est boule de poils finalement, c'est ça son nom. Boule de poils.
Tu as parlé, donc on a dit, il y a le chat, mais tu es donc maman de deux enfants, jeune adulte et puis ado. C'est un projet. Est-ce que pour toi, avoir des enfants, ça a toujours été quelque chose qui était dans ta tête?
Ben, c'est certain que, oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Pour moi, ça s'est concrétisé par l'adoption avec l'autre maman de mes enfants. Il y a déjà, je vous dirais, plus de 14 ans, en fait. Alors, on a adopté notre fille, notre grande, et puis... par la suite, on voulait avoir une certaine équilibre. Alors, pour Isaiah, son adoption s'est passée, une adoption au niveau de l'Ontario. En fait, en voulant adopter, on a réalisé que c'est pas si facile que ça. Des longs délais au niveau de la banque mixte, au niveau du Québec. Alors moi, j'ai toujours été de celles qui aiment passer par des chemins moins fréquentés. Alors je me suis dit, surtout si on veut un enfant au niveau du jumelage culturel, pour lesquels on peut leur apporter finalement une diversité antillaise. On s'est dit, je pense que ça serait important peut-être de sortir de certaines régions. J'ai fait des recherches. J'ai regardé du côté de la Nouvelle-Écosse parce que évidemment il y avait beaucoup d'enfants. Comme vous le savez, la Nouvelle-Écosse, c'est la porte d'accueil des premiers Canadiens noirs. Puis, mais au niveau interprovincial, il y a beaucoup de limites. On pense que l'adoption internationale, c'est difficile, mais l'adoption transprovinciale, c'est très difficile.
Et surtout quand on ajoute en plus la notion de communauté culturelle, je présume qu'il faut aller chercher encore plus en profondeur et que le Québec, c'est peut-être pas l'endroit où on trouve en premier lieu.
Oui, effectivement. Et surtout que le Québec qui est cloisonné en fonction de ses régions administratives. Alors, si on n'est pas de la même région, on nous dit les besoins sont comblés quand on sait que c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai regardé du côté du Conseil canadien d'adoption. Ils ont une liste d'enfants canadiens en attente. À l'époque, je pense qu'il y avait 23 000 enfants canadiens en attente d'être adoptés. Alors, c'est vraiment une liste pour les enfants qui, malheureusement, n'ont pas été en mesure de trouver une famille pour la vie. Alors, on s'est inscrite. Ça a quand même pris un certain délai avant qu'il y ait un premier jumelage. On voit des photos, on voit les profils, on voit l'histoire sociale de l'enfant. Puis, tout de suite avec Isaiah, on a senti un match. On a déposé une demande et puis c'est là que ça a commencé au niveau des délais. Isaiah est né à Toronto. Il préférait trouver une famille anglophone. Alors, pour Isaiah, ça a pris quand même environ 2 ans parce qu'en Ontario, on doit passer quand même à travers un processus une application. C'est une formation de 8 semaines. À la parentalité adoptive, ce qui est quand même très bien. Je trouve que vraiment, ça en vaut la peine. Alors, c'est un peu ça. Ça a pris quand même le processus d'acclimatation pour Isaiah. On allait le visiter à toutes les 4 semaines pour faire un premier contact. Ça a duré 6 mois. Alors, on montait toute la petite famille pour aller à la rencontre d'Isaiah. Puis, ça a été quand même un beau processus. Heureusement, grâce à nos lois canadiennes, à toutes les revendications, à tous les gains qu'on a faits au niveau juridique, c'était un processus clair, ouvert et transparent. Je me suis sentie vraiment toujours très bien accueillie. Puis ce que j'aime aussi avec l'Ontario, c'est qu'ils mettent beaucoup l'accent sur le jumelage culturel. C'est pas quelque chose qu'ils mettent de côté ou qu'ils ignorent. Ah, mais non, l'important, c'est de trouver des parents. Bien, je pense que c'est important aussi de respecter aussi...
que l'enfant peut-être
le bagage.
Éventuellement aura besoin de comprendre ce bagage-là et de trouver une famille qui va faire en sorte que ce bagage-là puisse être développé,
valorisé
adéquatement.
Tout à fait.
En tant que personne LGBTQ+, une personne BIPOC, en tant que parents. Comment tu fais justement pour rejoindre tout ça, pour que ta famille puisse, avec toutes les difficultés, l'intersectionnalité qu'on connaît de toutes ces petites choses-là, comment tu fais pour arrimer tout ça?
Ben, je pense naturellement. C'est sûr que même moi, en tant que femme métisse, il faut aussi que je me suis interrogée aussi sur mon propre parcours d'acceptation de cette biculturalité-là, parce que c'est certain qu'ici, pour moi, le Canada, ma mère est québécoise, c'est ma famille blanche. On parle d'une spirale de coming out. Hein. Souvent, dans nos réalités BIPOC, d'abord, c'est le coming out de nommer notre orientation. Et puis, par la suite, c'est de dire, OK, ben on veut des enfants. Alors, ah bon, OK, c'est... déjà là, l'acceptation de l'orientation sexuelle, ça a déjà pris un certain temps, là, c'est de dire, vous allez avoir des enfants. Comment?
Comment?
Le comment. Et là, le comment, ben là, le comment vient avec toutes sortes de questions. Oui, exactement. Et puis, mais on a toujours su qu'on allait vers l'adoption. J'aurais aimé porter mes enfants. Mais en même temps, c'est pour moi, c'est, je les ai portés dans mon cœur. Fait que sans soi, c'est sensiblement la même chose. L'important, c'est le parcours.
T'sais, si tu reviens des années en arrière, avant tout ça, tu parles beaucoup de ton métissage, tu es jeune, tu te dis, bon, tu as une première réalisation donc, du métissage, c'est souvent mm-hmm. quand on est jeune, tu as réalisation aussi de ton orientation. Qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là, maintenant que tu sais par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu dirais à ton petit younger self?
Je lui dirais, je comprends tes inquiétudes, mais t'es pleinement toi. T'es pleinement toi. T'es pas la moitié d'eux. T'es pas la moitié de tes parents, t'es pas moitié blanche, t'es pas moitié noire, t'es pleinement toi. Alors, fais-toi confiance, écoute-toi, puis vas-y. Fais tes choix, puis ça va bien aller.
Wow, c'est bien dit. Écoute, tu me donnes des frissons parce que je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis. Et quand on dit qu'on est pleinement soi, c'est avec tout ce qu'on vient, tout notre bagage, toute notre culture, etc. Mais qu'est-ce qui est important pour toi dans tout ce bagage culturel-là à transmettre à tes enfants?
Écoute, honnêtement, ça dépend des as, ça dépend des phases de développement. Je dirais, en ce moment, je suis beaucoup plus dans la... Mes enfants sont à la fin de l'adolescence, c'est tout le processus d'identification et tout. C'est... Et puis, le rapport aussi à leur adoption. Je leur dis beaucoup... Dans le sens, personne n'a choisi ses parents. C'est des rencontres avec ma grande qui commence le cégep et tout, qui vit plein de choses. Pour moi, je lui souhaite le meilleur. Je lui rappelle comment je l'aime, comment je l'ai choisi, comment elle était désirée. Puis, je lui laisse faire ses expériences, je pense, puis surtout de lui faire confiance.
J'aime beaucoup t'entendre parler de rencontres et c'est, pour moi, ça rejoint tellement l'adoption. Est-ce que tu avais déjà dans ta tête ce fil-là de rencontres et c'est pour ça que tu es allée vers l'adoption ou bien c'était complètement au hasard et au fur et à mesure, tu t'es dit, ben, waouh, justement, cette rencontre entre le parent et l'enfant qu'on n'a pas, en fait, avec les autres.
Il y a des rencontres. Que la rencontre arrive à 9 mois ou que la rencontre arrive à quand l'enfant, tu prends l'enfant dans tes bras ou que tu lui donnes son premier bain, il y a une rencontre. C'est simplement que l'enfant n'a pas l'âge ou auquel tu t'en attendais à ce moment-là où est-ce qu'il y a la rencontre. Comme moi, la rencontre, c'est la première photo envoyée par l'agence. Et puis, pour ma fille, puis pour mon fils, ben, c'est la même chose. C'est sa première photo vue sur la liste d'attente. Et contrairement à d'autres mères ou à d'autres parents, j'ai été chanceuse de les voir avant. Et moi, honnêtement, pourquoi l'adoption, c'est tout simple. Puis j'en parlais justement à des amis en fin de semaine. Moi, il y a plusieurs personnes qui ont joué un rôle de parent dans ma vie. Et puis, on n'était pas reliés par le sang. Moi, les personnes qui m'ont guidée, qui m'ont apporté une sécurité, qui m'ont nourrie, qui m'ont protégée, c'était en partie au début ma mère, par la suite ses sœurs, par la suite ma grand-mère maternelle, par la suite des collègues de travail, des amis. Ça a toujours été une famille choisie. Alors pour moi, quand est venu le temps d'avoir des enfants, c'était tout à fait normal que j'ai envie de jouer un rôle de guide, de tuteur. Alors, puis j'ai éduqué mes enfants en disant, moi, je suis là pour un temps. C'est comme un tuteur sur une plante. C'est pas bon de le garder trop longtemps parce que vous allez pas grandir droit. Il faut qu'à un moment donné, le tuteur sortir pour que la plante prenne ses forces puis grandisse par elle-même.
C'est une belle histoire, une belle manière de vouloir fonder sa famille. C'est toujours ce qu'on apprend avec ce podcast, c'est que différentes personnes ont le même but, avoir une famille, mais comment on rejoint ce but-là, c'est tellement inhérent à chaque personne et à son vécu, c'est vraiment magnifique à entendre. Et effectivement, dans les familles VIPOC, on retrouve aussi ce que tu as dit tout à l'heure, cette notion de plusieurs personnes qui jouent un rôle parentale, de figure voilà. Parentale pour construire la personne qu'on est aujourd'hui.
Oui, le village, ça prend un village pour éduquer un enfant. Oui, c'est effectivement.
On l'entend beaucoup dans nos cultures. Puis, c'est alors, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux futures familles Cutie by Puck? Tu sais, celles qui sont là, qui cherchent, en fait, ces référents-là, probablement que tu as dû le chercher. Moi, je sais que je l'ai cherché. Et je sais qu'il y a des jeunes qui cherchent encore et qui cherchent à entendre, tu sais, ce petit conseil-là qui va faire en sorte que, malgré la culture, malgré les traditions, malgré le poids de tout ça, ils vont se dire, je vais faire le choix d'avoir ma famille. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Un des conseils que je partagerais, ce serait de dire, rappelez-vous, de toutes les personnes bienveillantes sur votre chemin que vous avez rencontrées, prenez le meilleur de ces personnes-là et faites-en un tout qui vous donne du sens et allez-y. Vous allez être des bons parents puis vous allez rendre des enfants très heureux. Alors voilà.
Cette entrevue est une super inspiration et surtout est remplie de sensibilité.
Aucun doute. Merci beaucoup, Bianca, de nous avoir partagé aussi gracieusement ton parcours. Qu'est-ce que tu as appris dans cette entrevue-là, Lania?
Mais en vrai, le rôle de parent est très important dans sa communauté et il a donc été plus facilement accepté que son côté queer. Il y a comme une impression que quand tu es parent, ça permet de surpasser, en vrai, le tabou LGBT. Et donc, quelque part, tu te conformes à certaines attentes. Si je réfléchis, c'est un petit peu comme d'où je viens, on a à peu près le même mindset. Puis je pense que, effectivement, quand je vais avec mes enfants, on me pose tous « Oh, tu es parente !» sans forcément aller chercher plus loin que ça.
Mm-hmm.
Et toi, June, qu'est-ce que tu as retenu de cette entrevue?
Mais, tout ce qui est autour de l'importance du jumelage culturel dans l'adoption. À la DPJ, dans les banques d'adoption, la majorité des enfants, à cause de la colonisation, sont des enfants racisés.
En effet.
Puis, ça m'a fait réfléchir à comment, en tant que personne qui n'est pas BIPOC, qui adopte, il faut réfléchir. C'est plus que juste l'amour d'avoir un enfant. Il faut aussi mettre des outils en place, donc d'être conscient des réalités que ces enfants-là vont vivre du racisme, mais aussi que ces enfants-là vont vouloir se réapproprier leur culture, puis il va falloir les aider là-dedans.
Exactement.
La troisième et dernière famille, c'est la famille de Marie-Evelyne.
Marie-Evelyne et sa partenaire, qui se connaissaient depuis un certain temps, forment un couple depuis moins d'un an. Marie-Evelyne, qui croyait devoir choisir entre son orientation sexuelle lesbienne et son désir d'avoir des enfants, a eu deux enfants dans des relations hétérosexuelles. Ces deux femmes, dans la quarantaine, forment aujourd'hui un couple mixte, dans une relation qui a commencé à distance.
Elles sont venues nous rendre visite au bureau en septembre 2022. Le sourire aux lèvres, contentes de nous rencontrer. Elles venaient de manger un petit morceau aux trois pâtes à pouf, une boulangerie juste à côté du bureau. Et elles étaient toutes prêtes à nous parler.
bien, bonjour tout le monde.
Merci à vous deux d'être là aujourd'hui pour parler de votre famille. On va vous demander de vous donner vos prénoms et vos pronoms. Et puis, si vous avez des petites histoires sur vos familles, ça nous intéresserait aussi.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation. On est très honorés de partager notre parcours, en fait, humblement. Je m'appelle Marie-Evelyne. Mes pronoms sont elle-là. Je me définis comme une femme noire, lesbienne, francophone et aussi croyante. Donc, ça, c'est aussi un aspect important de mon identité. J'ai deux enfants, donc un garçon de presque 14 ans et une jeune adulte de presque 19 ans. Et ma famille est composée de façon exceptionnelle. Il y a deux papas dans ma famille, donc mon garçon a un papa et ma fille a un papa, des origines culturelles aussi différentes et une coparentalité avec deux autres parents et deux enfants qui n'habitent pas dans la même région. Donc, je suis bien occupée, je travaille beaucoup la flexibilité.
C'est bien dit. Là, je vais me retourner vers toi.
Alors, bonjour. Moi, c'est Hélène. Mes pronoms, c'est elle et là. Marie-Evelyne et moi, on se connaît depuis un certain temps, mais on forme un couple depuis 6 mois environ. Donc, on est en processus de recréation de familles différentes. Et je suis une femme blanche, lesbienne, sortie du placard, qui découvre, on va dire, certaines réalités BIPOC que je ne connaissais pas auparavant.
Ce projet parental-là, comment il s'est créé? Est-ce que c'est l'horloge biologique qui a fait comme ding, ding, ding? Ou bien, sociétalement parlant, on s'est dit, ben, OK, c'est le moment venu, on va avoir des enfants?
Alors, moi, je vais dire très sincèrement, quand j'étais jeune, j'ai grandi au Sénégal. Donc, c'est un pays aussi où l'homosexualité est criminalisée. Et à l'adolescence, j'avais déjà des élans pour les filles. J'étais tombée amoureuse et j'avais compris que je pourrais mettre ma vie et ma famille en danger. Donc, j'ai réprimé ça. Je ne voulais pas d'enfant en tant que tel. Je pensais que j'allais m'investir dans une carrière. Et puis, un peu plus tard, des membres de ma famille ont eu des enfants et j'ai eu la piqûre, surtout pour ma nièce, qui m'a vraiment ouvert à la maternité parce que je prenais soin d'elle, etc. Et à cette période de ma vie, j'ai eu encore une autre expérience où je devais choisir entre parcourir le chemin pour me connaître en tant que lesbienne ou faire le choix d'une famille. Et comme l'appel de la famille était vraiment plus grand, et surtout à cette époque, on parle d'un certain nombre d'années et d'une socialisation particulière, je n'avais pas de repère que c'était possible de fonder une famille en dehors d'un couple hétérosexuel. Donc, j'ai pris cette décision-là en étant très consciente que j'ai enfermé à partir de ce moment-là une part de moi. Et je me disais que la maternité serait suffisante pour
réprimer et
m'accepter. Et j'ai eu l'expérience d'une famille recomposée quand même, avec de belles expériences aussi dans le fait de vivre une famille. Parce qu'avoir une famille, c'est aussi une question de valeur, pas nécessairement de genre. Et il y a eu des moments très merveilleux dans cette composition de la famille. Mais je ne pouvais plus à un moment donné, ma santé mentale, ma santé physique, mon estime de moi, même ma capacité à prendre soin de mes enfants était complètement bouleversée parce qu'il y avait vraiment une part de moi que je n'aimais pas et que je niais. Et j'ai pris la décision de faire ce travail sur moi pour prendre mon envol.
Quand on est aux intersections de beaucoup de choses, peut y arriver d'avoir des défis. Et y a la culture, il y a les traditions, il y a la société. Je sais que vous êtes à Gatineau, donc il y a déjà aussi le fait de ne pas être à Montréal, d'être une famille LGBTQ+. Comment tout ça, vous arrivez à mettre tout ça ensemble pour pouvoir vraiment bien fonctionner, passer à travers tous ces défis en étant parent?
Moi, je dirais que tu m'as parlé de c'est quoi les défis. Et je sais pas, j'ai eu une grande boule d'émotions. Et ça veut dire que c'est très exigeant de parler d'une famille LGBTQ, francophone, en tant que personne noire, qui vit à l'extérieur de la région de Montréal et dans une ville comme Gatineau. Je vous dirais que ça fait 15 ans que j'habite dans cette ville-là et j'ai à peu près pas vu de couple mixte LGBT. Quand j'ai décidé de faire mon coming out et tout, je me suis sentie doublement, voire triplement isolée du fait que je n'avais pas de ressources comme moi, femme lesbienne dans ma communauté, et je n'avais pas de ressources pour soutenir mes enfants. Je ne savais pas où aller. Et dans tout ça, il y a la séparation, donc il faut négocier cette séparation-là. Il faut éduquer les enfants par rapport à notre nouvelle réalité. Et moi, j'avais pris la décision, après avoir vécu autant de temps dans le placard, de ne pas avoir accès à toutes les réponses, mais d'être honnête avec les enfants.
Et au niveau culturel?
Alors, au niveau culturel, ça a été aussi un problème. Et aussi au niveau de la foi, parce que moi, j'ai dû déconstruire tout ce qui m'avait été inculqué par rapport à cette dimension-là. J'ai quand même une perspective réflexive. J'avais quelques ressources aussi intellectuelles au niveau féministe aussi, qui m'a aussi aidée à comprendre que j'étais en train de tirer la ficelle pas seulement d'une identité, mais que tout explosait en même temps parce que j'étais aux intersections.
Exact.
Donc, quand on commence à se reconnaître comme lesbienne, on se reconnaît comme noire, on se reconnaît comme femme, on se reconnaît parce que ça va
ça
toujours
se dispatche,
ensemble.
En
ça
fait.
C'est exactement ça. Donc, cette intensité-là, grâce à ma base intellectuelle et réflexive, m'a permis au moins de comprendre que ça explosait, OK, et c'était vraiment une explosion, mais il y avait des raisons, et je crois que si je n'avais pas eu l'héritage des penseuses féministes noires, j'aurais eu beaucoup de mal à remonter.
Tu sais, moi, je réfléchis à tout ce que tu as dit tout à l'heure, Marie-Évelyne. Tu as réprimé les choses. Donc, on va arriver à ce moment de la découverte de soi. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, à ce moment-là, où, au lieu de réprimer, qu'est-ce que tu lui dirais,
oui,
justement?
Je lui dirais, ose rencontrer de nouvelles personnes. Parce que je pense que comment j'ai réussi à me construire, c'est en étant en contact avec différentes communautés. Et d'ailleurs, moi, un des piliers de mon dévoilement, c'est Arc-en-Ciel d'Afrique. Donc, j'ai pu entrer en relation avec des membres d'Arc-en-Ciel d'Afrique. C'était des personnes, il y avait des personnes même qui venaient du Sénégal, qui osaient vivre leur vie amoureuse. Et je me suis dit, si ces personnes arrivent à le faire, je peux le faire. Et je pense que la représentativité et le sentiment d'être comprise, le sentiment de me situer dans des identités où j'étais visible, où je pouvais m'identifier, a eu un rôle très important. Donc, j'aurais dit que, en fait, toutes les expériences où j'ai pu m'épanouir, c'est quand j'ai eu le courage d'aller vers les autres et de réessayer, parce que parfois, une expérience ne va pas tout de suite être concluante, surtout quand on chemine, c'est ça un chemin. Et donc, de ne pas s'arrêter à la première expérience et de continuer à se donner, reprendre notre souffle, parce que des fois, on est ébranlé, mais être curieux, aller vers les autres, chercher les milieux, les réseaux. Il y a toujours un groupe qui nous ressemble. Donc, je dirais à cette jeune femme, ose, prends le temps de te connaître en étant en relation avec d'autres personnes.
On en a un petit peu parlé tantôt. On va le faire quand même vite, juste de revenir là-dessus. c'est le partage de la culture, le partage de ces traditions. Est-ce que c'est important de le donner, de le transmettre?
Lani, comment dire ça? C'est très ébranlant ce que tu dis, parce que moi, je viens d'un pays, on va dire les choses, qui a été colonisé par la France. Et donc, je me retrouve en couple avec une Française de la région parisienne. Donc, nos premières rencontres ont été explosives, parce que moi, j'avais aussi un bagage de frustration très lourd à porter. Et à ce moment-là, il faut arriver à porter ce bagage tout en étant en relation et tout en étant capable de voir la personne devant nous
qui n'est pas l'histoire.
Mais voilà. Qui est reliée inévitablement à l'histoire. Et c'est aussi l'histoire de nos traumatismes, parce que vivre en relation avec une personne qui vient d'un espace colonial peut toucher profondément des traumatismes intergénérationnels. Souvent, parce que notre relation, on se l'est dit toutes les deux, est inévitablement politique. Et les féministes noires l'ont dit, oui. Le privé est politique, mais pour nous, c'est une découverte au quotidien et on ne sait pas où est-ce que ça va se passer et quand. Ça peut être au restaurant, ça peut être devant un film, ça peut être dans une intention extrêmement bienveillante de partage de lecture, mais nos regards construits d'espaces qui sont polarisés créent un espace où je pense que ni elle ni moi ne sommes outillés pour affronter ça.
Oui, donc on arrive déjà à la dernière question. Comme on est normalement dans la partie des femmes, les parentalités by époque, mais il y a un sujet sur lequel on s'est arrêté à plusieurs petits moments qui est la mixité. On a eu un beau petit débat tout à l'heure sur ce que c'est. Alors, au lieu de m'intéresser juste à la partie by époque, je vais poser la question, qu'est-ce que vous pourriez dire aux futures familles mixtes?
Wow!
Ouais, on n'a pas eu le temps de préparer la réponse.
On est encore en train d'y penser. Mais moi, je dirais d'abord, connais-toi toi-même. Parce que pour entrer dans ce cheminement-là, il faut avoir une certaine compréhension de ses mécanismes de défense, de ses limites, mais aussi des espaces où on peut créer des passerelles et des ponts lumineux pour aller à la rencontre des autres. Parce qu'il y a un équilibre à trouver et c'est un équilibre qui va continuer à évoluer en fonction de nouvelles expériences, d'un nouveau cheminement de vie. Donc, je dirais, prends le temps d'avoir une certaine connaissance de toi au contact des autres, au contact d'œuvres, mais de façon aussi concrète. Parce que pourtant, moi qui viens d'une discipline extrêmement réflexive et abstraite et auquel je crois, je pense que on peut se créer tout un monde à l'intérieur de notre esprit, mais que en fait c'est en étant en le confrontant à la réalité qu'on apprend à mieux cerner les cadres qui peuvent évoluer ou être mouvants. Donc prends le temps de t'aimer, de te connaître pour être capable d'aimer l'autre personne dans ses limites, dans ses différences, d'être capable aussi de lui accorder son rythme, de ne pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite, parce qu'on peut avoir vraiment envie de ça. Donc, ça serait vraiment ce que je pourrais recommander. Et c'est ce que je suggère aussi à mes enfants.
Merci.
Alors, moi, je vais répondre à une citation philosophique par une citation philosophique qui serait plutôt « Je sais que je ne sais rien ». Parce qu'il faut accepter que tout soit remis en question, que ce qu'on pensait être ce qui était sûr et certain ne le soit pas ou le soit de façon totalement différente pour l'autre. J'encourage d'autres à faire la même chose.
Bien, en tout cas, je vous remercie énormément pour ce partage, pour le temps que vous nous avez accordé. Ça a été une super belle rencontre avec des belles choses qui ont été dites. Donc, Hélène et Marie-Evelyne, un grand merci pour tout ça.
Merci pour l'invitation.
Oui, merci beaucoup et merci pour ta générosité, ton accueil, Lani. Et merci à la Coalition pour cette belle initiative.
Une entrevue dans l'ambiance de la journée, pleine d'émotions, mais avec de grands sourires.
Ça oui. Merci beaucoup à Marie-Evelyne et à sa partenaire pour ce partage profond qui nous a beaucoup touchés. Donc Lani, qu'est-ce que tu as appris dans l'entrevue?
Ce que j'ai appris, c'est que parfois, le désir d'enfant force à repousser son coming out. Mm-hmm. Tu sais, cette idée de se conformer pour avoir des enfants, ça résonne quand même beaucoup chez plusieurs personnes QT BIPOC. J'ai fait une recherche sur les familles racisées pour le WEJ, puis c'est quelque chose qui était déjà ressorti, puis que j'ai écrit, en fait, dans ce rapport. Et toi, June, qu'est-ce que tu as retenu?
Mais ce que j'ai retenu, c'est les défis autour de la mixité culturelle dans les relations intimes. Puis justement, notre prochain épisode, c'est une table ronde spécifiquement sur ce sujet.
On a bien hâte. Merci Myriam, Bianca et Marie-Evelyne pour ce voyage entre les racines, les parcours migratoires, les origines et bien sûr, nos identités QT BIPOC. L'entrevue de Marie-Evelyne est le parfait segue vers notre prochain épisode qui portera sur les enjeux culturels lorsque l'on est dans une famille en mixité raciale. Cet épisode sera dans un nouveau format, celui de la table ronde.
On célèbre présentement les 25 ans de la Coalition des familles LGBT. Puis Lani, je me demande pour les 25 prochaines années, qu'est-ce que tu souhaites pour les familles QT to BIPOC?
25 ans, faut réfléchir. Je te dirais la réappropriation de nos racines, de nos cultures, puis de nos propres termes, sans toujours y voir une extrapolation. Puis que les pratiques continuent à se décoloniser entièrement et fondamentalement. Mais surtout, qu'on commence à reconnaître que le racisme ordinaire et le racisme systémique sont des freins réels à l'épanouissement des personnes BIPOC, mais encore plus pour les familles QT BIPOC qui sont au centre de multidiscrimination. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, au même jour et à la même heure, pour un nouvel épisode où 3 familles QT BIPOC nous invitent à nous joindre pour une conversation sur les enjeux de la mixité culturelle en relation et en famille.
Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.